RCF.
Père Jean-Claude, aujourd'hui, vous allez nous présenter un écrit d'un des saints les plus populaires du monde, Hélénophone. De qui s'agit-il ?
De Saint-Nectaire d'Égine, dont nous avons fêté le 21 avril dernier le 60e anniversaire de sa canonisation par le patriarcat œcuménique.
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques repères biographiques sur ce saint ?
Nous avons deux ouvrages en français qui nous donnent accès à sa vie, car ce saint jouit aussi d'une grande popularité en Europe occidentale, en particulier en France. De très nombreuses nouvelles paroisses sont consacrées à ce saint et toutes les églises ont une icône de ce saint. Alors je cite les deux livres, Saint-Nectaire, le saint de notre siècle, de Sotos Chondropoulos aux éditions Carnelia, et du père Ambroise Frontier, Saint-Nectaire d'Égine, et cela est aux éditions de l'Âge d'Homme. Ce saint est connu donc sous le nom de Saint-Nectaire d'Égine, est né en Tarse, le 1er octobre 1846, d'une famille pauvre. À 13 ans, il part pour Constantinople pour trouver du travail. À l'âge de 20 ans, il quitte Constantinople pour devenir instituteur dans l'île de Chios. Désirant depuis longtemps embrasser la vie monastique, il devint moine sous le nom de Lazare, le 7 novembre 1873, dans le célèbre monastère Nea Moni de Chypre. Alors, grâce à la générosité d'un pieux habitant de l'île, puis à la protection du patriarche d'Alexandrie Sophone, il put compléter ses études à Athènes et obtenir le diplôme de la faculté de théologie. En 1885, il gagne Alexandrie, où il fut bientôt ordonné prêtre, puis consacré métropolite de Pentapole. La Pentapole, c'est l'ancien diocèse qui correspond à la Libye supérieure. Prédicateur et secrétaire patriarcal, il fut affecté après au Caire, comme représentant du patriarche dans l'église Saint-Nicolas. Malgré ses honneurs, Nectaire ne perdait rien de son humilité et savait communiquer à son troupeau spirituel le zèle des vertus évangéliques. Mais pour certains membres du patriarcat, jaloux de ses succès, ils le calomnièrent si bien qu'il fut chassé de son siège et dut s'embarquer manu militari pour Athènes, où il se trouva seul, ignoré, méprisé et manquant parfois même de pain quotidien. Alors, abandonnant son projet initial de se retirer au mont Athos, il resta à Athènes quelques années comme prédicateur, jusqu'en 1894, puis il fut nommé directeur de l'école ecclésiastique Chrysassos, destinée à la formation des futurs prêtres. À partir de 1904, poussé par un certain nombre de ses filles spirituelles, Saint-Nectaire fonda, malgré d'innombrables soucis et difficultés matérielles, un monastère féminin dans l'île d'Égine. Cette île n'est pas très loin du port du Pirée d'Athènes, à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest. De cette époque datent les lettres que nous allons découvrir un peu plus loin. Il s'endormit dans le Seigneur le 8 novembre 1920. Dès son repos, des miracles ont abondé et abondent d'ailleurs toujours encore. Le corps du saint resta miraculeusement incorrompu pendant plus de 20 ans en dégageant un parfum délicat. Il a été donc inscrit au calendrier des saints en 1961. Son tombeau à Égine est devenu un des pèlerinages les plus fréquentés de Grèce. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de m'en rendre compte lorsque j'ai eu la joie de m'y rendre dans les années 80.
Qu'est-ce qu'on peut retenir de lui, Père Jean-Claude ?
Oui, c'est difficile de résumer une vie. J'en retiens que malgré les calomnies, le mépris, les vexations venant des membres du clergé, d'abord à Alexandrie, puis en Grèce, Saint-Nectaire a su endurer ses souffrances avec beaucoup de patience par amour pour le Christ. Lors de sa canonisation par l'Église, l'Église d'Alexandrie, par la voix de son patriarche Pierre, a demandé pardon pour tout le mal qu'elle avait occasionné à Saint-Nectaire, évêque du siège de Pentapole. Il était empreint d'une profonde simplicité, et nous le verrons dans ses lettres, mais surtout il était proche de nos préoccupations spirituelles, et particulièrement de celles des plus petits, des plus humbles d'entre nous.
Outre les deux livres concernant ce saint que vous avez cité en introduction, est-ce qu'on a à notre disposition des écrits de Saint-Nectaire en français ?
Hélas non, et bizarrement, malgré sa forte popularité, nous n'avons traduit en français à ce jour que les lettres publiées aux éditions Lis et Parle. Nous allons les découvrir après notre pause musicale. Pourtant, il a énormément écrit, des ouvrages de théologie, bien sûr, mais aussi de très nombreuses hymnes à la Mère de Dieu qu'il envoyait justement au monial de son monastère d'Égine en guise de nourriture spirituelle. Nous allons écouter maintenant l'hymne très connu, « Ô Vierge pure, Agia Parthena ». Ô Vierge pure, souveraine, immaculée et Mère de Dieu, réjouis-toi, épouse inépousée.
Господи, возвак Тебе услыши мя, услыши мя, Господи. Господи, возвак Тебе услыши мя, вон ми глас умоления мое. Некогда возвати мне к Тебе, услыши мя, Господи.
Vous êtes sur RCF, c'est l'émission Les Chemins de l'Orthodoxie. On retrouve le père Jean-Claude de Gurnade. Nous nous sommes quittés en évoquant la vie de Saint Nectaire d'Égine. Vous voulez maintenant feuilleter le livre des lettres que Saint Nectaire a adressé au monial d'Égine.
Oui. Il s'agit donc du livre aux excellentes éditions Lis et parle, intitulé « Lettre pastorale au monial d'Égine de Saint-Nectaire d'Égine ». Il s'agit en réalité de la publication d'un choix de 35 lettres parmi les 50 que notre saint a adressées au futur monial de 1904 à 1908. Toutes ces lettres sont empreintes d'une profonde tendresse, certes, mais aussi de fermeté vis-à-vis de ses novices d'Égine. Ce qui frappe d'emblée en les lisant, c'est que la bienveillance de ce père spirituel qui s'exprime dans les moindres détails de la vie de ses novices, rien ne lui échappe. Il s'inquiète des détails de la construction du monastère en envoyant de l'argent. Très souvent, c'est de leur santé physique qu'il se préoccupe. À ce propos, il dit par exemple dans la lettre numéro 11, je cite, « Je conseille à Cassienne d'être attentive à sa santé et de prendre régulièrement ses médicaments pour parvenir à une complète guérison. De même que Xeni ne néglige pas de soigner son corps, ne se souciant soi-disant que de son âme, afin de ne pas être combattu par la droite. » Ici, il faut que j'arrête la citation pour expliquer qu'en langage ascétique, le combat par la droite désigne la tentation d'un zèle déplacé, d'une ardeur excessive, du pharisianisme et de l'auto-justification en alléguant de bons prétextes. On voit bien ici le père spirituel qui met en garde contre tout cela. Alors je poursuis la citation. « L'animal a besoin de l'assiduité de l'effort avec une prudence pleine de sagesse. Il vous faudra beaucoup de temps pour arriver à la perfection. Ne tendez pas la corde de l'arc au-delà de la mesure. Les dons divins ne se laissent pas prendre par la force. Dieu donne ce qu'il veut à qui il veut et ses dons sont toujours gratuits. Nous recevons tout gratuitement de la miséricorde divine. Le labeur régulier et l'offrande parfaite de notre espérance en Dieu sont agréables au Seigneur, lequel produit ses grâces. Espérez et appliquez-vous au travail. Ne tendez pas la corde de l'arc au-delà de la mesure, afin qu'elle ne casse pas prématurément. » Saint Nectaire était parti au début de sa lettre d'une prise régulière d'un médicament, et au passage, il développe donc un conseil spirituel. C'est tout l'atmosphère de ces lettres pastorales. Tous ces précieux conseils spirituels sont valables non seulement pour les moniales, mais aussi pour nous tous chrétiens d'aujourd'hui. L'importance de la prière, de l'humilité, du renoncement à sa volonté propre et de la soumission à la volonté de Dieu sont constamment soulignés dans ces lettres. Toutes ces lettres sont nominatives, mais certaines d'entre elles sont comme de véritables petits traités spirituels et concernent donc toute la communauté. Elle porte d'ailleurs en introduction la mention que cette lettre soit lue à toutes les sœurs. Nous avons aussi la lettre 18 qui présente les vertus du changement de nom lors de la prise d'habits monastiques, une autre qui traite de la paix de l'âme, une autre évoque le combat contre l'égoïsme. Je ne peux donc les citer toutes. Un autre type de lettre nous donne à lire une homélie que le saint a prononcée et qu'il a recopiée pour l'édification des moniales. De belles homélies qui me touchent beaucoup aujourd'hui encore, en les lisant plus d'un siècle après leur écriture.
Il nous faut penser à conclure maintenant, Père Jean-Claude.
Oui, je vais donner lecture d'un court extrait de la lettre 16 qui nous parle de la prière qui peut nous être utile aujourd'hui. Je le cite donc. « Je ne veux pas que vous accomplissiez une prière formelle, mais une prière d'adoration. » En effet, ce n'est pas la règle qui procure un contentement au cœur, mais l'adoration. Ni la lecture de tous les canons qui furent écrits pour la célébration des saints, mais la qualité de prière. Saint Nectaire note ailleurs que ne sont pas les prières et les supplications qui conduisent à la perfection, mais le Christ vivant en nous lorsqu'on accomplit sa volonté. Je le cite, « L'unique et premier commandement, c'est que s'accomplisse non pas notre volonté, mais celle de Dieu, dit-il dans la lettre 26. » Alors nous garderons ce conseil pour les jours à venir.
Merci Père Jean-Claude. Je rappelle le titre de l'ouvrage dont vous nous avez parlé, « Lettre pastorale au monial d'Égine » de Saint-Nectaire d'Égine aux éditions Lis et Parle.
Merci Violaine.
Et nous nous retrouvons dans le plateau SPI avec la pasteur Corinne Gendreau, le pasteur Samuel Duval et le père Claude Charvet. Des réactions à ce que nous venons d'entendre avec le père Jean-Claude Gurnad.
Claude Charvet. Moi j'aime bien le côté très concret de cette éducation spirituelle, qu'on puisse passer de la santé à des conseils sur la prière, qu'on puisse aller aider à faire que Dieu agit dans tous les secteurs de notre vie. Et ça, je trouve que c'est très moderne, c'est vraiment très incarné. Et j'aime beaucoup ces réflexions que Jean-Claude, tu nous introduis toujours à des grands spirituels par des choses toutes simples.
Voilà, moi j'ai apprécié ce Saint-Nectaire qui est un vrai coach finalement au sens moderne, un coach spi, un coach de vie pour que les moniales vivent dans l'équilibre. Il donne des conseils raisonnables, enfin c'est effectivement très pratique.
Ressemble un peu aux lettres de Paul d'ailleurs, hein, à ce titre-là.
Il ne faut pas tomber dans l'excès, ni d'un côté, ni de l'autre. Bon, c'est formidable.
Et moi ça m'a fait penser au Tsaretz Sozin, c'est le Tsaretz des frères Karamazov. Dans ce bon sens et dans cette approche qu'il a. Alors c'est vrai que j'ai d'abord pensé à lui, pas tant par le bon sens, mais parce que dans les frères Karamazov, le corps du Tsaretz, il se décompose, et c'est ce qui va faire qu'il va pas être reconnu saint. Mais de l'autre côté, ça montre quelque chose dans la culture orthodoxe de la reconnaissance de leur grand maître à travers cette pensée dans laquelle Jean-Claude, tu nous amènes souvent de près très terre à terre, très très concrète, comme dans les pères du désert, donc ça me faisait penser à ce Tsaretz Sozin et vraiment cette idée que il y a pas de séparation entre le spirituel et le terrestre. Et que c'est l'ensemble de la création qui est affectée par Dieu.
La littérature russe, à ce niveau-là, est fondamentale pour comprendre l'esprit religieux.
Un grand spirituel, et comme vous le disiez aussi, très concret en même temps. C'était le plateau SPI, les chemins de l'orthodoxie. Rendez-vous demain à 12h15 pour un autre volet de rencontres écuméniques. Et dans un instant, 12h30, on retrouve Bruno Fuma, Radio Edith sur RCF. Bon après-midi à tous.